Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Emmanuel Robitaille avec vous. Emmanuel Robitaille, j'allais dire Robert Blondin, mais non, Robert n'est pas là aujourd'hui. Robert a dû s'absenter, nous laissant tous seuls à la dérive, mais il nous aime tellement qu'il a quand même insisté fermement, pas en tout. Il a quand même tenu à nous faire une petite capsule en deuxième partie d'émission, donc on entendra quand même sa douce voix. On a toujours des invités et on va peut-être mettre quelqu'un qui est habitué de travailler dans l'ombre un peu plus sous le spotlight aujourd'hui, c'est ce qu'on va dire. Bienvenue à Aime la vie.
Getting
Falling Water de Maggie Rogers, incroyable et très talentueuse auteure, compositrice, interprète ou autrice, compositrice, interprète selon où on se situe dans cette nouvelle appellation. N'en demeure pas moins que Maggie Rogers, c'est une jeune fille, jeune femme, dirais-je, que j'ai découvert il y a quelques années déjà dans une vidéo sur les réseaux sociaux qui la présentait en atelier d'écriture avec le très célèbre William Farrell. Et bon, je regarde ce qu'elle fait, très talentueuse, mais à chaque fois, et je vous le dis, elle retombe dans mon champ de vision, si je peux dire, sur mon chemin, à peu près une fois par année et demie, deux ans, et à chaque fois, elle m'accroche et je m'en retourne voir et je réalise que ça me ramène toujours à elle. Donc, je vous rappelle son nom, c'est Maggie Rogers. La chanson qu'on vient d'entendre, c'est Falling Water et c'est tiré de son EP Now That the Light Is Fading, qui est son sixième opus. Et si vous n'aviez pas remarqué, il fait pas froid, il fait frette. Et je suis de celles qui n'a pas jugé pertinent d'en rajouter ou de le mentionner sur ses réseaux sociaux. C'est le fun que j'ai un micro et que je prenne la tribune pour le mentionner ici. Et c'est pas simplement pour chialer, c'est pas gratuit, non. On parle de cet hiver, dans cette période-ci qui est particulièrement froide. On parle également où on considère, quand on a le moindrement de conscience sociale, on considère la situation d'itinérance que plusieurs humains vivent actuellement, à Montréal même, près de chez nous, et qui est dans une situation absolument précaire présentement. On est habitué d'en parler et de sentir une grande empathie, grande compassion vis-à-vis la situation actuelle, parce qu'elle est pire que jamais dans toute l'année. C'est là maintenant qu'on a une espèce d'éveil ou une espèce d'élan, mais il y a aussi beaucoup déjà qui est fait pour ce phénomène-là, c'est-à-dire pour aider les personnes sans-abri actuellement qui ont froid, il y a des choses qui sont faites. Et j'en profite pour t'apostropher Jean-Sébastien Laliberté qui est en régie actuellement. Est-ce que tu acceptes d'être celui avec qui je dialoguerai davantage aujourd'hui?
Oui, je peux être l'auditeur de ton monologue. Oui, on peut jaser, il n'y a pas de problème.
Ben c'est ça, tu sais, je me dis, même pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent, je trouve que ton agréable voix masculine pourrait ponctuer un petit peu ce long monologue. Mais si je te dis rapidement, l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Mm-hmm. Moi, je viens pas de la région, donc quand je me suis mise à lire, j'ai fait « Ah, il y a un hôpital qui a été fermé en 2015 et qui est en train d'être dans un état de décrépitude absolument incroyable. Étais-tu au courant? »
J'en ai entendu parler, oui, vu que j'ai entendu les journaux quand même assez souvent à cette même antenne. Oui, ça me dit quelque chose.
Eh bien, sachez que l'hôpital dont on a fermé effectivement les portes en 2015 s'est vu attribuer une nouvelle mission en décembre dernier, soit l'ouverture de 80 lits pour accueillir les sans-abri, considérant le débordement des services d'urgence en plein hiver actuellement. C'est du 15 janvier au 15 avril que ces lits supplémentaires sont disponibles, ce qui donne une amélioration de 112 lits de plus, donc supplémentaires comparé à l'an dernier. C'est vraiment considérable comme amélioration, on va se le dire. Et c'est pas tout. On permet aux animaux de compagnie des personnes sans-abri de venir avec elles. Donc, on ne sépare pas des familles. On accepte. Et pour vrai, personnellement, cette nouvelle initiative qui est pet-friendly, que je dirais en bon français, est absolument phénoménale et nécessaire pour moi qui adore les animaux, mais qui aussi, c'est le reflet qu'on avance dans nos réflexions et que c'est pas vrai que c'est impossible ou qu'il faut juste s'occuper de l'essentiel. Tout est possible. Et ça fait écho à une initiative qui est similaire, qui a été implantée dès le début novembre à Toronto, le même type d'installation qui a été fait. En fait, c'est des tentes géantes, gonflables et déplaçables aux besoins qui a été montée et qui accueille également les animaux de compagnie, en plus des gens qui en ont besoin. C'est pas une, mais deux tentes et c'est 100 personnes par tente qui peuvent être logées. Et en plus de l'hébergement, ils ont droit à des lits pliants, des douches, des toilettes, de la buanderie, salle à manger, salon, salle d'entreposage pour que les gens soient bien. Donc, c'est pas du cheap, c'est pas de la bonne conscience. Ça fonctionne, c'est bien fait et c'est confortable.
On peut juste applaudir des bonnes nouvelles comme ça, d'autant plus quand on entend, comme dans les dernières semaines, la quantité de personnes à travers le pays qui ont été retrouvées sans vie dans des containers pour là où on fait des dons de vêtements ou autre chose. Donc oui, très belle nouvelle.
Mais je suis contente que tu ouvres la porte, Jean-Sébastien. J'en profite pour vous dire que la mission Old Brewery veut que vous les appuyiez si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un qui a très, très froid, s'il vous plaît. Si c'est un homme, appelez au 514-798-2244. Si c'est une femme sans abri, appelez au 514-526-6446.
Ta main au feu, juste pour le fun. On se lève plus pour personne. Non, je réponds pas au téléphone. Mouillons nos longs cheveux monotones. Nous sommes des gens en forme. Dans ma caverne, nos voix bouillonnent. Manger ton malheur, c'est moins ennuyant. D'aimer un volcan, ça me fait bien moins peur. Manger ton malheur, c'est bien plus brillant.
Mange-malheur du groupe Horloge. Jean-Sébastien, je t'interpelle encore une fois.
Oui, allô?
Je vais faire le son. C'est très drôle. Jean-Sébastien, si je te dis le mot boléro, ça te fait penser à quoi?
Boléro de Ravel?
Vraiment?
Ben oui.
Ah, j'ai fait zéro lien dans mon cerveau, on n'a pas le même cerveau.
Non, moi je pense pas à un morceau de vêtement, moi je pense à une pièce de musique.
Exact, ouais, c'est ça, exactement, on n'a pas les mêmes liens sémantiques, on va se le dire. Non, moi je pensais plus à la pièce de vêtements très très festive et estivale, et je me dis que dans ce temps-ci de l'année, ça ferait du bien, et pas juste ça. On va parler aussi d'agriculture, et vous allez voir que c'est pas un projet ordinaire. On en parle avec Sylvie Rochette, cofondatrice et directrice générale chez Regroupement Partage, qui nous parle, oui, de la campagne Adopter un plan de carottes. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, boléro, moi, ça veut dire oui. Carottes.
Ben, c'est ça.
Oui.
Vous donnez vos noms, des noms à vos carottes, mais il y a vraiment boléro
non,
existe, là.
En fait, oui, c'est le nom du de la carotte, le nom de la famille de la carotte. Donc, Adopter, oui, je vais vous parler de notre beau programme Adopter un plan carotte. C'est un programme en économie circulaire. L'économie circulaire, ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille avec des ressources qui existent déjà et on met tout ça ensemble pour pouvoir arriver à mettre en place un programme avec moins de ressources, mais avec un résultat plus grand. C'est-à-dire que c'est un projet d'agriculture périurbaine. Donc, oui, on a des terres agricoles encore disponibles sur l'île de Montréal qui nous permet de cultiver des légumes racines que nous pouvons donner aux banques alimentaires à l'automne et durant les mois d'hiver, au moment où les banques alimentaires où les fruits et légumes sont le plus bas au niveau de la disponibilité.
Effectivement.
Et qui va permettre à ces banques alimentaires-là de les remettre aux groupes qui les remettront à la population montréalaise. Donc, et 55% de notre production est donnée aux banques alimentaires et 45% de notre production est vendue à travers la bannière Métro qui va permettre en 2023 de financer le programme. Mais d'ici ce temps-là, on a besoin de sous. C'est pour ça qu'on a lancé Adopter un plan de carottes. Donc, ce projet-là, c'est on travaille en insertion sociale, donc un projet de solidarité pour nourrir les Montréalais, avec quelques jeunes en insertion sociale à différents moments qui vont participer à la production agricole. Et tout ça dans le but, comme je le disais, de nourrir des Montréalais. Donc, Adopter un plan de carottes, c'est vraiment une campagne un peu différente des autres, une campagne de financement qui invite la population à adopter un plan de carottes virtuel.
Mais c'est quand même ludique, on va se le dire,
oui,
parce qu'on l'adopte et après on peut avoir des nouvelles de lui. Là. Il se passe des choses après l'adoption virtuelle. Là.
Oui, donc chaque personne qui adopte un plan de carottes vont suivre l'évolution de leur plan de carottes au cours de l'été prochain. Mais d'ici ce temps-là, on va avoir un certificat. Ils vont avoir aussi un petit cadeau des semences qui vont pouvoir faire cultiver les mêmes carottes que nous on cultive, mais à plus petite échelle, bien naturellement. Parce que, comme je le disais, on est l'équivalent de 11 terrains de football en production actuellement et on va aller jusqu'à 40 terrains de football en production. Donc, c'est énorme. C'est vraiment une ferme agricole. Et les gens qui vont adopter nos plants carottes, comme je le disais, vont avoir un petit cadeau, vont avoir un certificat et au cours de l'été prochain, vont suivre l'évolution des carottes, mais vont aussi avoir quelques vidéos qui vont leur expliquer davantage ce que c'est et pourquoi ils le font. Donc, s'ils le font, c'est pour nous permettre d'aider les Montréalais. Donc, chaque dollar reçu pour nous, ça vaut 1,90 $, 1,95 $
Donc, c'est le
qu'on
double.
Remet à la population. Donc, et l'œuvre léger va doubler jusqu'à la concurrence de 25 000 $ le nombre d'argent qu'on va amasser pour pouvoir arriver à une pérennisation de notre projet beaucoup plus rapidement, donc de plus dépendre d'aucune subvention.
Mais parlons-en de vos collaborateurs, parce que vous avez le comédien Louis-David Moras comme
oui.
porte-parole, comédien d'en haut. Vous avez
oui, Philippe, le gentil Philippe dans de Clermont.
Oui. vous l'avez nommé l'œuvre léger qui va doubler les
oui.
dons amassés jusqu'à l'occurrence de 25 000 $. Et les trois brasseurs se sont joints à vous également à l'automne dernier
oui.
avec la campagne Cultiver l'espoir. Combien avez-vous amassé? Avez-vous un chiffre pour nous?
Oui, on a ramassé 9 000 $ avec eux. Donc, pendant un mois, ils ont fait une bière à la carotte et un menu carotte avec nos produits. Et chaque bière ou chaque plat qui était vendu pendant un mois, bon, on nous remettait 1 $ à nous. Mais on a aussi d'autres partenaires qui sont autour de ce projet-là. Ce projet-là ne serait pas viable si la Ville de Montréal ne mettrait pas à notre disposition des terres agricoles. Donc, on ne paye pas de loyer. Alors, c'est ça l'économie circulaire. Oui. On travaille aussi avec un producteur. Donc, nous ne sommes pas venus, nous, producteurs agricoles, bien que nous sommes certifiés éco-serre, c'est-à-dire en régie biologique. Nous travaillons avec un organisme qui a la ressource nécessaire pour le faire, les équipements nécessaires pour le faire et l'expérience. Donc, on ne dédouble pas encore. On n'est pas allé chercher des subventions pour se former, acheter des équipements, mais on travaille avec ce qu'il y a sur le terrain déjà. On achète des équipements, nous, pour le projet, et lui peut se servir de nos équipements également pour sa propre production. Et ensuite, pour le traitement des légumes, parce qu'il faut savoir qu'avant de vendre un légume ou donner un légume, il faut le traiter, il faut l'entreposer, il faut le calibrer, c'est-à-dire voir si c'est le bon format, également le nettoyer et l'ensacher et le diriger vers soit les banques ou vers les bannières alimentaires. Et ça, ça prend aussi beaucoup de sous pour faire ça. Ça prend des entrepôts, des camions, tout ça. Et on travaille, nous, avec une entreprise privée qui nous les fait au prix coûtant. Ce qui fait qu'on a une économie au niveau des ressources matérielles et des ressources humaines énormes. Et encore là, un autre partenaire dans l'économie circulaire. Et on a aussi les banques alimentaires qui vont venir chercher directement, lorsque ça va être prêt, les carottes et les autres légumes, les rutabaga et les choux qu'on va leur donner. Donc, encore là, une économie. On ne dédouble pas de service, mais on sert de ce qu'il y a sur le terrain.
Donc, un projet très bien organisé, un projet très sérieux. Et j'invite tout le monde à être amusé, à être curieux, mais surtout généreux. Allez sur le regroupementpartage.ca, vous informer sur ce projet avec Boléro, le plan de carottes. Chaque dollar qui sera donné va équivaloir au double. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine. Madame Rochette, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup.
Alors, adopterunplandecarottes.com. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
J'étais sur mon chemin pour aller jouer dans le métro. Je me dis c'est une bonne journée pour payer le bill d'hydro. J'suis comme en retard sur le loyer. Puis ben, y'a pas grand chose dans le garde-manger. Le monsieur, l'agent, l'air un peu frais. Il me dit t'as-tu ton permis, ça c'est à tes frais. J'ai dit ben non, devine pourquoi j'suis là. Il me dit ça prend de l'argent, sinon tu t'en vas. T'es un peu trop pauvre pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. J'ai dit, oh ouais, si c'est comme ça, m'en va faire le tour du Guatemala. Un petit voyage, ça me fera pas tort. Ça t'ouvre les esprits, ça te calme les efforts. J'arrive là-bas, je demande un coup de main. Y'a-tu moyen de travailler pour un peu de pain? Ils me disent, oh ouais, gringo, c'est toi qui es riche. Dans ton pays, tu sais que c'est pas mal plus chic. T'es pas assez pauvre pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. C'est d'un matin d'aller porter des CV. M'a parlé au gérant, ça sera pas compliqué. Un gars comme moi, ils vont bien m'engager. J'ai été bénévole et puis j'ai voyagé. Le bonhomme se pointe, il a l'air sévère. Il me scrute la tête au pied et qu'un air bête. Il me dit, ouais, t'as pas vraiment d'expérience. Moi, je me cherche quelqu'un qui a déjà eu sa chance. T'as pas assez travaillé pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. Je vais tenter ma chance à l'université. Après tout, dans ma société, c'est bien accepté. M'en faire un bac, sortir avec une carrière. Tant que c'est pas trop plate que je check mes arrières. J'arrive au bureau des prêts et bourses. C'est pour une demande de paye, j'touille, j'étais à cause. Ça me dit, ça prendrait un relevé de vos impôts. Mais j'ai comme l'impression que t'as fait une coupe de piastres en trop. T'as bien trop travaillé pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. J'ai enfin trouvé la meilleure solution. M'en va mettre sur le BS dans pas long. M'en y aller pour la solidarité. Tant qu'à être solidaire, j'suis aussi bien en profiter. La petite madame a l'air morose. Vous savez, c'est pas les petits frères des pauvres. Votre dossier me dit, vous êtes allé à l'école. Nous autres, on n'accepte pas ça, les petites bolles. T'es bien trop éduqué pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. La seule avenue qui me reste, m'en va me lancer dans le commerce. M'en vendre la drogue, m'en remonter la pente. Mais madame la reine n'était pas trop clémente. Ils m'ont passé les menottes. Puis j'ai dit ah, maudite crotte. Juste avant de réaliser
tous mes problèmes étaient réglés. J'suis logé pour l'hiver, j'suis bien content. Ici, c'est les cigarettes qui valent ton temps. M'en partir un racket ici dedans. Moi être le boss des bécosses, ça va être dément. Puis enfin, avoir de l'argent. Puis enfin, avoir de l'argent. Puis enfin. Et la marche.
Et on vient d'entendre Sam Harvey, la pièce L'argent. Emmanuel.
Oui.
Si je te parle de flossing.
C'est vrai? Du flossing, mais c'est le... Le floss...
Voyons, non, pas la soie dentaire, le mouvement de danse, le flossing,
et
tu connais?
Hey, la danse, là. Veux-tu que je te parle de mes talents?
Non. En fait, je t'amène sur une fausse piste, on parle pas du tout de flossing. Moi, je te parle du secret du bonheur danois. Pour être heureux au quotidien, Robert nous a parlé beaucoup de fois par le passé de sa recette, en fait de ses pistes pour connaître le bonheur. Mais
tu connais mon amour pour les Danois et les pays scandinaves.
Ben, écoute, et mon amour pour le bonheur lui-même.
Oui.
Donc à ceux qui sont de nature stressés, on vous suggère le hygge.
Le hygge.
Donc mon danois est parfait, vous l'entendez. Ça s'écrit H-Y-G-G-E, donc il faut vraiment savoir que ça se prononce pas hyge. C'est un art de vivre scandinave qui place le bonheur avant toute chose. À l'origine, ça a été adopté pour passer à travers les longs hivers danois où le soleil est là trop rarement, puis on sait qu'on a besoin du soleil. Mais maintenant, ça c'est devenu un art de vivre pour provoquer et apprécier les bons moments au quotidien pour faire face au stress quotidien, tout ce qui est travail, argent et autres soucis de la vie.
Et je connais le hygge. Et le
oui.
Hygge, et si je ne me trompe pas, toute cette philosophie, ce mode de vie-là, se base sur une chose, le mou.
Ça peut être résumé comme ça,
près.
Oui. Puis on sait, je pense que les Danois savent de quoi ils parlent. Ils sont souvent cités comme étant un des pays les plus heureux. Présentement, ils sont au troisième rang parmi les pays les plus heureux selon l'OCDE. Comment on le pratique? Écoute, il y a 10 points que je n'aurais pas le temps de tous nommer ici, mais si on commence, on a parlé du mou, si on n'a pas le temps, on poursuivra plus tard à travers l'émission. D'abord, l'ambiance. Tu sais, ça crée une belle ambiance. On peut tamiser l'éclairage, faire un feu si on a un foyer, sinon allumer des chandelles, que ça soit chaleureux. La présence aussi, je vais terminer là-dessus. On lira les 8 autres plus tard.
La présence avec ceux qu'on aime et sur le moment présent.
Fermer nos téléphones, tablettes, ordinateurs, jeux vidéo, Netflix, Facebook, on reste présent.
Même la vie se poursuit encore pour 30 minutes, Emmanuel Robitaille, sans Robert Blondin cette fois. Habituellement, je suis comme tellement habituée, Emmanuel Robitaille et Robert... Non, Robert Blondin a pris des vacances pour la semaine et j'ai décidé, moi, bossy que je suis, d'interpeller directement Jean-Sébastien Laliberté en régie.
Allô, on s'amuse bien.
Effectivement, et tu nous parlais avant la pause du hygge, qui est une des clés du bonheur des Danois, qui est en troisième position sur la liste des peuples les plus heureux au monde.
Mm-hmm.
On va un petit peu tendre l'oreille. Et tu nous parlais des feux de foyer, entre autres, qui faisaient partie du mode de vie hygge.
Mm-hmm.
Et je voulais simplement... Et tu as plusieurs points à nous dire d'ici la fin de l'émission par rapport à ça, mais je voulais simplement rajouter, parce que toi, tu as ton foyer depuis jeudi passé qui est à pleine pine.
Mm-hmm.
Moi, j'en ai pas. Je me suis mis... je me suis mis une petite image de foyer sur YouTube, sur mon écran 19 pouces d'ordinateur avec une couverte, mais moi, je me dis que j'ai fait mon bout. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés à essayer le foyer différemment, mon beau-père, et je le salue Alain en passant, quand on était jeunes, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait des pommes et qu'il le mettait sur le dessus du foyer et ça ajoutait vraiment une odeur absolument chaleureuse qui est ancrée en moi. Pour toujours. Essayez-le, ça crée une ambiance vraiment le fun. Et pas grand monde connaît ça. Donc, je vous le lance, je vous le donne, c'est gratuit. Et je vous pose la question suivante, on va avoir la réponse d'ici la fin de l'émission. Je voudrais savoir, selon vous, où se situe dans le monde la première ville à ne pas avoir le phénomène d'itinérance?
Oh, 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 oh. Promis, je jure,
je n'irai plus au bois. Mes mains sont liées et ma tête est en proie à quelque chose d'étrange, une folie malsaine, de pensée qui s'affole. Je ne suis plus le capitaine. Aller de port en port, sans carte et sans boussole, vu naître et mourir les aurores, et ma mémoire qui s'étiole. Je sais plus trop comment je suis arrivé ici. Dans mes yeux, le noir, le blanc se mêle, ne reste que la nuit. Entre les feuilles, les branches, les souvenirs, on me laisse voler. Silence lourd d'une nuit blanche évaporée. Depuis combien de temps, plus d'une semaine, vous dites, ma tête est un néant, tout au prix la fuite. Debout à la fenêtre, je ne détourne pas le regard, la cime des arbres qui se balancent, le vent qui souffle fort ce soir. Je dois craquer l'allumette et ne sens rien entre mes doigts. Je vois le monde comme un fantôme à travers son drap. La musique joue dans ma tête comme une berceuse rassurante. Tout ira bien, ne t'en fais pas, tout ira bien, l'âme chantante. Entre les feuilles, les branches, les souvenirs, ils ont brûlé. Dans le silence lourd d'une nuit blanche, évaporée. N'y reprendre pas, la nuit est tombée, je n'irai plus au bois. Oh, 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 oh.
Aimer la vie, c'est aussi des fois aimer la polémique, ou pas. Mais on va tomber dans un sujet avec toi, François, qui vient d'arriver en studio, qui peut parfois mener à des conversations, je dirais, passionnées, ou qui s'envolent facilement. On parle de produits laitiers, on parle d'allaitement, on parle de bébé, on parle de biberon avec toi aujourd'hui.
Ah, parfait.
C'est assez vaste, mais c'est ça.
C'est vaste, c'est vrai. Alors, on peut parler d'abord, d'ailleurs, de l'allaitement. L'incidence de l'allaitement chez la femme et son tour de taille 10 ans après, lorsque l'enfant a 10 ans. Hein? Donc, on s'est aperçu que lorsqu'une femme allaite plus de 6 mois, son tour de taille est inférieur au tour de taille des femmes qui n'ont pas allaité de 4,4 cm. Ce qui paraît pas grand-chose,
mais
ça fait
Dieu,
quand même
beaucoup.
De taille.
Ah, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
OK, mais on veut savoir pourquoi, c'est quoi le mécanisme derrière ça? Parce que rapidement comme ça, tu dis ça et je ne comprends pas.
Ben moi non plus. En fait, on n'en sait rien. C'est une constatation sur une très grande cohorte de 10 000 femmes à peu près. Et on s'est aperçu que ces femmes, en dessous de 6 mois et jusqu'à 6 mois, c'est 3,4 cm par rapport à celles qui n'allaitent pas du tout. Mais on ne sait pas pourquoi, réellement. On se demande. Hein. Mais c'est quand même un fait très intéressant, très étonnant quand même.
Absolument. Et c'est surtout encourageant pour celles qui veulent allaiter ou qui allaitent et qui se disent « Je ne vois pas de résultats. » Inquiétez-vous pas.
Voilà.
Si vous aviez de la misère à perdre du poids, plus tard, vous allez en voir les résultats. Et c'est drôle parce que tu nous parlais de la cigarette il y a quelques semaines. Je dirais l'année passée. Et tu nous disais qu'avec effort ou sans effort, après 4 ou 5 ans, les gens perdaient naturellement le poids qu'ils avaient pris.
Exactement.
Sans effort supplémentaire.
Exactement, c'est ça.
Donc, on voit que des comportements actuels peuvent avoir des répercussions beaucoup plus tard sans qu'on comprenne pourquoi et sans aucun effort de notre part. C'est
exactement.
Merveilleux.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est merveilleux. Mais ça fait peut-être penser qu'on a besoin quand même de retrouver peut-être des principes hygiéniques simples. L'allaitement, il est quand même fait... l'allaitement, il est utile pour la preuve, pour tout le monde. Arrêter la cigarette, finalement, on revient à un niveau qui fait qu'on se retrouve avec son poids normal de base. après avoir arrêté la cigarette. Je voudrais parler aussi de la stérilisation des biberons.
Oui. Parce que, mais non, mais...
Si on n'allaite pas. Et après, allaitement...
Je ris parce qu'on en a parlé un peu hors micro tout à l'heure. Il y a des gens dans l'entourage, dans les membres de l'équipe de l'émission d'Aime la vie qui ont des bébés.
On se disputait gravement, là.
Et il y a toute une question par rapport à ces biberons-là qu'on utilise chez les jeunes enfants, soit les stériliser ou pas les stériliser. Moi, personnellement, je ne suis pas maman, sauf de chat. Dans tout mon pathétisme, je suis une mère féline. Il n'y a pas de biberon. Mais ma sœur a des enfants. Il y a cette chose de silicone qu'elle a sur son comptoir où elle dépose les biberons à l'envers, donc pour les rincer. Mais là, tu me parles d'aller une coche un peu plus intense, là.
Eh bien, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de stériliser
les
biberons?
Je ne sais pas.
Ben voilà. Est-ce que c'est nécessaire de les stériliser alors qu'on prive justement les enfants d'un contact, pas très important, mais un contact avec les germes de la maman ou du papa, et qui sont des germes commensaux, des germes qui permettent aux enfants de créer une immunité qui est nécessaire et qui va leur être utile? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? En fait, il y a une grande bagarre là-dessus. Faut-il stériliser? Pourquoi stériliser les biberons? D'ailleurs, est-ce que ce sont des biberons en verre ou pas? La stérilisation des biberons en plastique avec le micro-ondes ou le lave-vaisselle risque de dénaturer le plastique, qui risque de donner non pas des bisphénols A puisqu'il n'y en a plus, mais des B, des C, des D, etc., etc., qui sont eux aussi, qui peuvent être aussi dangereux. Alors, si on stérilise des biberons en plastique, à mon avis, c'est à double tranchant. Il vaut mieux, si on stérilise des biberons, prendre des biberons en verre. Parce que le verre ne se dénature pas. Même si c'est plus lourd et désagréable à donner, il ne se dénature pas.
Mais est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels c'est pertinent, voire primordial, de stériliser les biberons des enfants?
Bien sûr.
Parce qu'il y a des parents qui se font dire de le faire et c'est pas pour
rien.
Bien
sûr, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, il y a une ambiance d'infection dans la famille.
Ah.
Notamment, on en parlait tout à l'heure, s'il y a un enfant avec des otites à répétition, en fait,
c'est
presque
fréquent,
une otite
chronique, oui, c'est
ce qui est très fréquent. À ce moment-là, on a intérêt à nettoyer et à stériliser les biberons en verre. Mais dans un cas où il n'y a absolument aucun problème et tout se passe bien, est-ce qu'on a vraiment intérêt? Non. À mon avis, on a intérêt à rincer le biberon avec un écouvillon immédiat.
Avec un quoi?
Un écouvillon, un goupillon. Ça s'appelle un écouvillon, en fait. On dit un goupillon, le goupillon c'est le machin du curé pour bénir. Hein. L'écouvillon, c'est pour nettoyer les biberons. C'est vraiment fait pour ça. Et nettoyer le biberon avec l'écouvillon, le rincer très bien et le mettre à l'envers sur un support qui permette de bien l'écoulement de l'eau et le laisser sécher. Donc il faut en fait toute une batterie de biberons. Il faut en avoir plusieurs des biberons, simplement. C'est tout, ça suffira.
Et donc, sérieusement, la morale de cette histoire, c'est
encore une fois, est-ce que c'est l'excès? Dans toute chose, n'est jamais bon.
Mais ce que je retiens, c'est qu'encore une fois, la façon la plus large, qui nécessite le moins d'efforts, est encore parfois la plus gagnante, sauf dans le cas où il y aurait contamination potentielle.
Absolument, exactement.
Sinon, c'est comme l'histoire de la suce qui tombe par terre. On le remet dans la bouche, puis on essaie d'amener notre enfant à toucher à ces microbes qui vont l'entourer.
C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut mieux partager les germes commensaux. Donc, si la suce tombe par terre, il vaut mieux que ce soit l'un des parents qui la suce et qui la nettoie et qui la rende ensuite au bébé. Parce que mettre la suce dans la bouche directement du bébé, si elle est tombée par terre, c'est pas
top. Je serais qualifiée de mère indigne.
Mais voilà, mettez une mère féline, donc
non,
c'est pas grave.
Ça, moi, je suis correct, je suis même pas dans le débat. Oui, mais OK, mais c'est super intéressant. Mais on repart tous d'ici qu'on allait ou qu'on n'allait pas, qu'on soit maman ou pas. Ce que je retiens et ce qui reste applicable sur probablement autre chose, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus éventuellement, mais moi, je pense que des fois, la loi du moindre effort peut gagner. Merci François.
Je t'en prie.
Thank you. Maintenant le jour s'allonge à l'est. T'orientes du rouge à l'air. Des braises qui saignent. Et longtemps j'ai eu peur des autres, longtemps j'ai cru, mais jamais, non jamais.
Parce que je ne peux pas me passer si longtemps de toi, Robert, actuellement.
Mais c'est réciproque, voyons.
On est actuellement un peu à l'avance en cette journée de janvier. On le sait, tu n'es pas à mes côtés à l'émission. Mais
je
ne
pouvais
quand
pas
même...
être là à l'heure habituelle.
Mais on est en toute transparence, on le dit. On prépare ce prochain petit topo ensemble un peu à l'avance parce que je veux que tu sois quand même là. Moi, je vais t'écouter en live, je vais mettre l'enregistrement puis je vais être super contente.
Ben, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse drôlement. C'est pas pour le, ce moment-ci de l'année, il fait trop froid. Mais l'accueil Bonneau, qui s'occupe évidemment des itinérants, comme on sait, a mis sur pied, avec des collaborateurs très, très compétents, tout un système de réinsertion sociale à partir des riches d'abeilles. Et t'en as 8 ou 9 qui sont sur le toit de l'accueil Bonneau, mais une trentaine réparties ailleurs sur le territoire. Et on s'arrange pour que ce soit les gars de la rue qui s'en occupent. Et ils ont appris comment le faire.
De l'apiculture.
De l'apiculture pour itinérants.
En réinsertion sociale.
Absolument. Et ils prennent leur lunch là, ils mangent là, mais ils peuvent s'occuper aussi des abeilles. Ils voient leur reproduction, la production de miel, vérifient des maladies. Un peu partout, on les amène plus loin en territoire pour vérifier. Et je trouve ça extraordinaire.
C'est très original, en fait, premièrement, première des choses.
Ben c'est organique en même temps. C'est quelque chose qui est directement lié à la vie. Puis ils font toute l'insertion au complet, c'est-à-dire que l'intégration est verticale. Non seulement on vérifie l'état de santé des ruches, on installe les ruches, on y installe les abeilles, on vérifie leur production, leur santé, mais on fait la mise en marché également. Et on va dans 2 marchés publics et ils viennent de signer une entente avec les marchés métro pour pouvoir en vendre dans un étalage spécifique, identifié aux itinérants.
Les gens savent
absolument
à qui ils l'achètent.
Absolument, des itinérants. Je trouve ça extraordinaire parce que là, tu fais quelque chose, tu n'as pas l'impression de recevoir de la charité ou d'être dépendant de quoi que ce soit. Tu fais quelque chose qui rapporte quelques sous et qui aide vraiment à s'insérer dans le vrai processus de la vie. Ça, c'est le genre de bonne nouvelle que j'adore, parce que ça a de la suite. C'est pas un geste. Tu commences le geste, tu inities toute l'initiative, le comportement.
Et tu vois ton produit final, et tu vois les retombées,
et
tu sais que ça se rend aux gens.
Et à chaque année, tu recommences avec les saisons et tout.
Est-ce qu'on a le nom de ce miel-là? Si on veut se rendre, par exemple, au métro et s'assurer qu'on achète le bon, est-ce que l'article nous rapporte le nom du produit ou c'est pas encore sorti?
Ça va être à compter du printemps prochain.
Ah, OK.
Que ça va être dans les métros, parce qu'il faut attendre que les abeilles produisent du miel.
Donc, on reste à l'affût.
On reste à l'affût, sinon à la ruche.
Merci, Robert.
Mon téléphone ne me parle plus. Quand il s'adresse à moi, je ne le comprends plus. Il me s'illumine car les mots étranges. Et là, je devine que tout
comme l'été.
Jean-Sébastien, aujourd'hui, tu as entrepris de nous aider à passer l'hiver en te basant, en t'inspirant des Danois et de leur façon à eux d'être plus heureux en temps froid, en adoptant le mode de vie suivant, le hygge.
Oui, qui s'écrit H-Y-G-G-E. Plus tôt dans l'émission, j'ai parlé des deux premiers points que, sur 10, cette petite liste, le manifeste du hygge en 10 points. Je vais parler de l'ambiance, pour rappeler ça rapidement, un feu, des chandelles, un éclairage chaud.
Donc, chaleureux, s'il chaleureux. Vous plaît.
Et la présence, donc on ferme nos cellulaires ou tout ce qui nous connecte sur l'univers, mais qui nous déconnecte de ceux qui nous entourent. Alors, on est présent, on est avec les autres. Et c'est tous des points qui se recoupent un petit peu. Troisième point, on se fait plaisir. On fait plaisir à nos papilles gustatives, à notre corps. Donc, un café, un thé ou un chocolat chaud, des gâteaux ou autres que gâteries.
Les Danoises, on va être dans le thème.
C'est très thématique. Également, l'égalité. On priorise le « nous » et le « je ». Donc, on ne peut pas dire « moi, je vais faire du hygge » pendant que quelqu'un d'autre fait le ménage complet de la maison. Ça ne fonctionne pas. Donc,
ah, c'est vraiment bon.
S'il y a des choses qui doivent être faites, préparer le repas ou peu importe, on s'attaque à la tâche ensemble pour après ça pouvoir passer du temps de qualité ensemble. Parce que, point numéro 5, être ensemble. On veut être présent, on veut partager, être ensemble, socialiser, être avec des êtres vivants et non pas virtuels. Ça peut être des humains, ça peut être aussi des animaux, mais c'est de connecter avec l'autre. Ensuite, la gratitude. On peut en profiter pour partager un bon repas, sortir les jeux de société, ces genres de choses qui, on dirait, ont disparu un petit peu de notre univers pour certains.
Moi, je suis une fan finie de jeux de société. Moi et ma sœur, on est des game board addicts.
Bon,
complètement. Ben, donc, je dis oui, je vote oui. On est très heureuses, d'ailleurs. Ça fonctionne.
Ensuite, l'harmonie. Donc, on parle d'humilité. C'est pas le moment de se vanter. On n'est pas meilleur que l'autre. On n'est pas plus important que l'autre. Donc, on partage le temps de parole. On connecte avec l'autre et on est juste deux personnes ou plusieurs personnes au même niveau, même rang social, même tout. Donc, on est en harmonie et aussi, on peut faire une trêve. Donc, pas de politique, pas de débat sur la religion, pas de polémisation. On veut garder ça relax. On veut être heureux. Donc, c'est pas le moment d'être en désaccord sur des sujets épineux et qui nous rapportent un petit peu le stress de la société qu'on parlait plus tôt. Ensuite, le confort. Quand j'ai commencé à parler de cette recette du bonheur, tu m'as dit qu'on peut résumer ça avec
vraiment.
Mou.
C'est ce que j'ai retenu, en parfait quand je me suis intéressée moi aussi au hygge.
Ben, des vêtements chauds, des vêtements ben, chauds parce que c'est l'hiver et on a besoin d'être au chaud, mais des vêtements confortables si ce que vous aimez, c'est des vêtements mous, des bons vieux coton ouaté, comme on dit. Habillez-vous comme ça, ça peut être une couverture chaude, des bas de laine. Donc, le but, c'est d'être bien. Et finalement, le refuge, on rend sa demeure confortable, agréable pour ne pas avoir l'impression d'être confiné à l'intérieur, de ne pas pouvoir sortir, mais c'est plutôt un choix qu'on fait de rester à l'intérieur et d'en profiter. Point 1 à 10 du manifeste du Hygge. On n'oublie pas également, vu que c'est l'hiver, si la température le permet, si vous avez l'occasion, allez profiter un petit peu du soleil pour pouvoir encore plus apprécier que vous allez rentrer à l'intérieur, de profiter de votre demeure. Et si vous êtes seul ou introverti, ben rien ne vous empêche de lire un livre ou de vous faire plaisir et de déculpabiliser.
Effectivement, et t'en as parlé, on parlait de danoise tout à l'heure, en se faire plaisir, ça je te dirais que c'est pas super à mode, se faire plaisir sans culpabilité, il est temps que ça revienne. On parlait de danoise, on en a ri un petit peu, mais moi ce qui m'est venu aussi c'est mijoteuse. Ici, c'est ça qui sonne. Tu sais, on pense confort, faites-vous plaisir, rendez-vous confortable, revenez dans le ventre de votre mère, c'est pas compliqué. Sérieux, c'est vraiment ça. Une couverte, s'envelopper, enveloppe, chaleur, sorte à mijoteuse. Faites de quoi de bon. Bon, moi, du tofu à mijoteuse, c'est moins mon fort parce que on sait que je suis plus une tripeuse de viande tant que ça. Sauf quand que je vais, mettons, au restaurant ou quand, chez d'autres personnes, je suis encore très flexible. Mais quand même, de se faire plaisir et de parler de l'intérieur, si jamais vous êtes pas capable, pour diverses raisons, de rendre votre maison au complet, Hygge. Je lisais là-dessus, ça disait aussi de se choisir un endroit, un bord de fenêtre, un coin de maison, un coin de salon, et de transformer juste cet endroit-là, de rajouter des coussins, de mettre un tipi, tu sais, ça se vend, ça se tasse, c'est super populaire, là. De juste rendre un endroit très, très cosy, très, très chaleureux, très, très mou.
De se créer un refuge à l'intérieur de notre chez nous.
Oui, sans avoir à virer la maison à l'envers et à apporter, comment qu'appelle ça, d'être trésor déco, mais aussi de faire du home staging pour changer la chambre des enfants juste pour faire du hygge.
Fait que c'est pas nécessairement des concepts qui sont révolutionnaires. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pratiquer déjà, mais il y a des choses qu'on a peut-être oubliées ou qu'on prend pour acquis.
Ou qu'on se donne pas le droit, mais ici, on est là pour se donner le droit. Et avant qu'on termine, je vous ai posé une question rapidement en début de deuxième partie d'émission, si je peux me dire. Quelle est la première ville, littéralement la question, c'est quelle est la première ville ou dans quel pays est la première ville dans laquelle on a aboli l'itinérance? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait le phénomène d'itinérance et ça a été aboli. Dans quel pays, selon toi?
Bien, vu qu'on parlait du Danemark, je vais prendre une chance avec le Danemark.
Bien, bravo, non.
Non.
Ce n'est pas le Danemark et ce n'est pas non plus un pays scandinave. C'est une ville qui s'appelle Medicine Hat en Alberta, au Canada. C'est en 2015 que cette ville a été capable, une ville de 70 000 habitants, grâce au programme Housing First, qui procure un logement permanent. On ne parle pas d'hébergement d'urgence ou d'un canapé. Là, c'est vraiment un logement permanent à des sans-abri qui sont relogés autant de fois que nécessaire également. Donc, il n'y a pas de limite de temps de service. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et ils ont fait un simple calcul budgétaire et ils se sont rendus compte que le jeune itinérant coûte environ 20 000 % de plus par année que de s'en occuper par divers services sociaux. Et ben, je dis bravo à cette ville très inspirante. Commençons à faire des gestes maintenant et surtout, soyons... rendons-nous compte de la chance qu'on a d'avoir un toit aujourd'hui. Si c'est juste ça, ça sera énorme et ça sera... plus que nécessaire. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, de t'être prêté au jeu. Aujourd'hui avec moi aujourd'hui. Merci à Catherine Bourderon également à la recherche. Merci à vous d'avoir encore été là et on se dit à la semaine prochaine.
Ciao!